Imaginez deux secondes la scène. Une tornade monstrueuse dévaste tout un quartier. Elle pulvérise une maison spécifique, genre elle la réduit littéralement en un tas d'allumettes.
Mais destruction totale, quoi.
Voilà, totale. Mais par un caprice complètement incompréhensible de la dynamique des vents, elle laisse la maison du voisin, qui est située à 3 mètres de là, absolument intacte.
Avec la pelouse même pas ébouriffée.
C'est ça. Et face à ces décombres, notre première pensée, bah, c'est presque instinctif, c'est de chercher un sens.
Bien sûr.
On va se dire, pourquoi cette maison? Quel est le message caché, en fait? Qu'est-ce que les propriétaires ont fait pour mériter ça? Ou alors, pourquoi ils ont été ciblés pour une leçon d'humilité?
Ouais, on veut absolument trouver une logique.
Exactement. Parce que notre cerveau déteste le vide, donc il fabrique un scénario de toutes pièces. Mais la question d'aujourd'hui, c'est « Et si la réponse, aussi terrifiante soit-elle, c'était tout simplement rien ?» Bah, il n'y a aucun message.
Non, c'est le grand saut dans le vide philosophique.
C'est carrément ça. Et c'est précisément ce saut qu'on va faire aujourd'hui dans votre exploration. On s'attaque à l'une des questions les plus tenaces de l'expérience humaine. Pourquoi est-ce qu'on souffre ?
Vaste programme.
Tu m'étonnes. Et pour décortiquer ça, on a sur la table un document qui est particulièrement dense et provocateur. C'est la session 29 des enseignements du docteur John Walton sur le message du livre de Job.
Un texte incontournable.
Totalement. Et je précise que notre objectif ici, c'est absolument pas de faire un sermon théologique. On est là pour analyser de manière purement objective les arguments de Walton.
Ouais, et c'est passionnant parce qu'il déconstruit complètement l'idée super populaire que ce texte ancien, ce serait un manuel qui explique les causes de la tragédie.
Alors que pas du tout, en fait.
Pas du tout. Le livre de Job, il a subi des siècles et des siècles de malentendus. Enfin, l'approche de Walton, elle nous oblige à regarder ce texte pas comme un distributeur de réponses réconfortantes sur comment l'univers fonctionne.
Plutôt comme un miroir, non ?
C'est exactement ça. Un miroir braqué sur nos propres biais cognitifs. Parce qu'il faut comprendre que l'esprit humain, par le biais de l'évolution, c'est une machine à détecter des motifs.
Genre, on cherche des modèles partout.
Voilà. Si un buisson bouge dans la savane, bah, notre ancêtre, il avait carrément intérêt à supposer qu'il y avait une cause, genre un prédateur.
Plutôt que de se dire que c'est juste du vent aléatoire et de finir manger.
C'est ça. Du coup, on a gardé ce besoin compulsif d'avoir une relation de cause à effet. On exige un ordre cosmique parfait. Mais Walton commence son analyse avec un truc qui fait l'effet d'un électrochoc pour notre cerveau.
Il y va fort dès le début.
Ah bah oui. Il dit que dans bien des cas de souffrance, il n'y a peut-être aucune raison. Zéro.
Et ça, en tant qu'humain, c'est une idée qui nous déstabilise, mais d'une force.
Ah, c'est insupportable pour nous. Mais le texte montre que Job, lui-même, il n'a jamais su pourquoi il souffrait. Et surtout, c'est le point clé, il n'y avait absolument aucune cause dans son propre comportement qui justifiait l'anéantissement total de sa vie.
Ce qui va complètement à l'encontre de notre réflexe naturel quand la tragédie frappe, en fait. Enfin, quand un truc grave arrive, on repasse le film des événements en boucle.
Pour y trouver la petite faille.
Ouais, on scrute le passé, on se dit « si seulement j'avais pas pris cette route à cette heure-là » ou « c'est parce que j'ai pas été assez prudente ». On fouille le passé avec une loupe parce qu'on est persuadé que le passé contient la facture de ce qu'on est en train de payer au présent.
Et Walton explique très bien que regarder vers le passé, bah, par définition, c'est chercher des raisons. Et que cette quête-là, dans le cadre de la tragédie humaine, elle est juste vouée à l'échec.
C'est une impasse.
Totalement. D'ailleurs, il s'appuie sur une perspective un peu plus large. Il évoque l'évangile de Jean au chapitre 9.
Ah oui, l'histoire avec Jésus, c'est ça ?
C'est ça. Jésus lui-même, il détourne ses disciples de cette recherche de, je cite, « qui a péché pour causer un malheur ?» En gros, il leur dit d'arrêter de chercher un coupable.
Et donc, Walton suggère quoi à la place ?
Bah, il suggère qu'il est peut-être plus constructif de regarder vers l'avenir pour y chercher un but, plutôt que de fouiller le passé pour trouver une raison.
Mais il met un gros bémol là-dessus, non ?
Ah oui, une nuance cruciale. Il dit que cette recherche de but, faut la mener avec une prudence extrême. Faut surtout pas s'y accrocher de manière dogmatique. Parce que parfois, bah, même en scrutant l'avenir, on trouve tout simplement pas de but.
Ouais, il n'y a aucune garantie métaphysique que des raisons ou un but existent systématiquement pour chaque événement douloureux, quoi.
Exactement.
Et d'ailleurs, il y a cette image formidable dans la source, enfin je la trouve parfaite pour illustrer notre entêtement. Walton parle de l'illusion du guichet des raisons.
Ah oui, cette métaphore est géniale.
Vraiment. En gros, inconsciemment, on s'imagine tous qu'après la mort, on va arriver dans une grande salle d'attente céleste, tu vois. On va prendre un petit ticket numéroté Et une fois arrivé au guichet, il y a quelqu'un qui va ouvrir un registre immense pour nous dire...
Alors, votre accident de voiture de 2014...
Voilà. C'était pour développer votre empathie, madame, et la maladie de votre proche, ah, bah ça, c'était pour souder votre famille. On attend vraiment un bilan comptable du sens de la vie.
C'est exactement ça. On veut le relevé de compte de nos galères.
Et Walton, bah, il affirme sans aucun détour qu'il faut abandonner ce fantasme. Ce fameux guichet, il n'existe tout simplement pas.
Et cette métaphore, elle déconstruit ce qu'on pourrait appeler l'anthropomorphisme de la souffrance.
C'est-à-dire, en termes simples.
Bah, en termes simples, on traite l'univers comme s'il avait un cerveau humain, avec des motivations humaines, une planification humaine et un sens de la justice qui serait exactement calqué sur le nôtre.
Ah ouais, on plaque notre psychologie sur le cosmos en fait.
Totalement. Et Walton, il balaye complètement cette conception, il va même plus loin que l'argument classique, vous savez, celui qui dit que les raisons existent, mais que notre petit esprit est trop limité pour les comprendre.
Le fameux « les voies impénétrables » quoi.
Voilà. Lui, son argument est beaucoup plus radical. Il dit que ces raisons, bah, elles pourraient ne pas exister du tout. L'univers contient intrinsèquement du non-ordre et du désordre.
Donc des choses qui arrivent sans aucun plan d'arrière.
Exactement. Beaucoup d'expériences, même les tragédies les plus indicibles, bah, c'est pas l'exécution d'un plan caché ou d'une leçon sur mesure. C'est juste le résultat de l'état actuel d'un monde qui est imparfait. Et un état physique ou biologique, c'est pas une raison morale.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, pour revenir à l'image de ma tornade du début. C'est comme s'entêter à trouver une intention ciblée, un message hyper personnel venant de la tempête.
Alors que c'est juste de la physique, quoi.
Mais oui, si on refuse d'accepter que c'est simplement de la thermodynamique, genre des masses d'air chaud et froid qui entrent en collision, ben on risque littéralement de devenir fou à chercher un sens.
C'est épuisant mentalement.
Grave. Mais psychologiquement parlant, si on accepte cette réalité vertigineuse, le fait qu'il n'y a parfois aucun plan, aucune raison derrière la destruction, la réaction qui monte immédiatement, c'est pas la paix, c'est une colère noire.
Ouais, l'indignation pure.
C'est ça. L'injustice, elle devient carrément insupportable parce qu'elle est aveugle. Et vu qu'on veut toujours un coupable, bah on finit par chercher un responsable à blâmer.
Et cette colère dont vous parlez, bah c'est la transition parfaite vers la deuxième dynamique que soulève Walton.
D'accord.
C'est ce qu'il appelle l'erreur de Job.
Le syndrome du procureur, en gros.
C'est exactement ça. Face à l'absence de raison logique, la réaction humaine de base, c'est d'endosser le rôle du procureur. Et l'erreur monumentale du personnage de Job, dans l'analyse de ce texte, c'est d'avoir voulu traîner l'univers au tribunal.
Il veut convoquer la divinité elle-même pour un procès, quoi.
Oui. Il exige une comparution, un procès en bonne et due forme pour obliger le créateur à se défendre, à justifier comment il gère le monde. Mais Walton précise bien que, selon le texte, il ne faut jamais s'attendre à ce que la divinité se justifie ou explique ses méthodes.
C'est au-dessus de notre niveau d'habilitation, en fait.
Totalement. La mécanique de l'univers dépasse infiniment notre champ de compétences. C'est le concept de ne pas pouvoir être un meilleur dieu que Dieu, comme il dit.
Ah, ça me fait penser au défi rhétorique de chapitre 40, non ?
Oui, tout à fait.
Après avoir écouté toutes les plaintes de Job, la réponse divine revient un peu à dire « Très bien, mon gars, tu critiques la gestion cosmique. Vas-y, monte sur le trône, prends les rênes du système solaire et gère la justice globale sans causer d'effets secondaires. Et on va voir comment tu t'en sors. »
C'est exactement le propos. Le texte, il expose l'arrogance intellectuelle de l'humain. Penser qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait organiser un monde parfait, sans que chaque petite intervention provoque un désastre ailleurs.
L'effet papillon, quoi.
Voilà. C'est avoir une compréhension extrêmement simpliste et mécanique de ce qu'implique la gestion de l'univers. Job tombe en plein dans le piège. Il surestime sa capacité à appréhender la complexité cosmique et il sous-estime ce que ça signifie vraiment de maintenir l'existence.
Ça me fait penser à une analogie. C'est un peu comme traverser de violentes turbulences en plein vol dans un avion de ligne.
Ouais, on voit tous ce que ça fait, hein.
Bah, au lieu de s'attacher et de juste faire confiance, notre réflexe naturel de procureur nous pousserait à nous lever en pleine tempête. On irait défoncer la porte du cockpit pour exiger du commandant de bord qu'il nous donne un cours magistral sur la mécanique des fluides.
Mais en pleine turbulence.
Tout en étant intimement convaincu qu'on pourrait mieux piloter le Boeing 747 nous-mêmes. Enfin, c'est complètement absurde quand on l'observe de l'extérieur. Mais face aux turbulences de notre propre vie, c'est notre action psychologique par défaut.
C'est une super image. Et le pilote de ligne, bah, il va certainement pas lâcher les commandes pour donner un cours de physique à un passager qui panique. Ça mettrait tout le monde en danger.
C'est clair.
Et de la même manière, L'univers ne s'arrête pas pour nous fournir des rapports détaillés sur ses opérations, ce qui nous amène à la révélation majeure de la session 29 de Walton.
Oui, parce que du coup, la vraie question, c'est si le livre de Job ne sert pas à expliquer le pourquoi des drames, ni à nous donner des leçons d'aérodynamique cosmique, de quoi il parle vraiment ce texte ?
Eh bien, Walton déplace le projecteur. Il le retire de la douleur de Job pour le braquer sur la véritable question qui est posée dès l'ouverture du texte par le personnage de l'adversaire, le fameux Challenger.
Et c'est quoi cette question ?
C'est de savoir s'il existe une droiture désintéressée. En gros, est-ce que quelqu'un est capable de servir ou défaire le bien pour rien ?
Personnellement, ça me pose un vrai problème de logique psychologique.
Ah oui ? Pourquoi ?
Honnêtement, est-ce que c'est seulement possible pour un être humain d'agir de manière 100% désintéressée ? Quand on fait le bien, on en retire toujours quelque chose, non ?
C'est vrai qu'il y a toujours un bénéfice secondaire.
Voilà, on a la conscience tranquille, on ressent une certaine fierté, on gagne l'approbation sociale, ou au moins le confort moral de se dire « je suis du bon côté ». On est des machines à calculer notre intérêt, même inconsciemment. Croire qu'on peut agir sans aucun package d'avantages en retour, ça me semble presque utopique.
Et c'est là toute la puissance du texte. C'est précisément le cynisme de la question du challenger. Et c'est ce qui fait tourner le moteur de toute l'histoire, en fait.
Donc, Walton est d'accord avec ce scepticisme ?
Totalement. Il reconnaît parfaitement que les croyants reçoivent de réels avantages. Il fait un parallèle avec le christianisme moderne, par exemple, pour illustrer ça. Le salut, la vie éternelle, le pardon, la paix intérieure.
C'est des sacrés bénéfices, quoi.
C'est des bénéfices énormes. Mais l'argument du livre, selon Walton, c'est que la maturité ultime consiste à dévaloriser ces bénéfices dans notre propre esprit.
De ne plus agir pour la récompense ?
Voilà. Il faut arrêter de se considérer comme des clients qui cherchent un retour sur investissement perpétuel de la part de l'univers. Le but, c'est de devenir des participants, des partenaires au sein d'une entreprise cosmique plus vaste. Le vrai défi, c'est d'être prêt à maintenir son intégrité, même quand la machine à distribuer des bénéfices s'arrête complètement.
D'accord. Donc le texte chercherait à voir ce qui reste de l'intégrité humaine une fois qu'on a retiré toutes les récompenses, même les psychologiques. C'est brutal.
C'est le test ultime.
Mais est-ce que les sources donnent un exemple concret d'une telle attitude ? Parce qu'en théorie, c'est super beau, mais en pratique, qui a déjà réussi ce test ? On a un cas d'étude ?
Oui, justement. Pour prouver que cette droiture désintéressée est possible, Walton sort du livre de Job et il prend une autre figure monumentale. Il se penche sur l'histoire d'Abraham. Plus spécifiquement, le récit très tragique du chapitre 22 de la Genèse.
L'histoire où on lui demande de sacrifier son fils Isaac. C'est mondialement connu.
C'est bien ça. Mais pour comprendre l'analyse de Walton, faut vraiment dépasser le choc initial de cette demande sacrificielle. Faut regarder la mécanique profonde, en fait. Isaac, c'est pas juste un enfant aimé.
C'est beaucoup plus que ça dans le contexte de l'époque.
Exactement. Isaac représente l'intégralité du contrat, de l'alliance et des promesses qui lient Abraham à la divinité.
Parce que toute la promesse d'une descendance, de devenir une grande nation, de posséder des terres, tout cet avenir repose exclusivement sur la survie de cet enfant unique. Si Isaac disparaît, l'avenir disparaît avec lui. Point final.
C'est toute la subtilité de la démonstration de Walton. Jusque-là, tout au long de la vie d'Abraham, chaque fois qu'on lui demandait de renoncer à quelque chose, c'était toujours accompagné d'une promesse d'amélioration.
Il avait toujours à y gagner, en fait.
C'est ça. On lui disait « quitte ton pays ». Mais c'était pour obtenir une terre meilleure. Le contrat était avantageux. Mais dans ce chapitre précis, la structure bascule complètement. On lui demande de détruire la seule preuve de la promesse.
Donc là, il n'a absolument plus rien à gagner.
Plus rien. L'équation s'effondre. Il a tout à perdre. Tout son futur, tous les bénéfices de son engagement précédent partent en fumée.
Le retour sur investissement tombe littéralement à zéro. Le fameux package d'avantages dont on parlait tout à l'heure, il s'évapore sous ses yeux.
Et c'est précisément la raison pour laquelle, une fois l'épreuve passée, la déclaration divine dans le texte, c'est « Maintenant, je sais que tu crains Dieu ». Dans l'analyse de Walton, l'alternative aurait été terrible.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Si Abraham avait reculé, ça aurait signifié « Maintenant, je sais que tu ne respectais les règles du jeu que pour les bénéfices. Tu n'es partenaire que lorsque le contrat t'avantage personnellement. »
Ah ouais. C'est puissant.
Walton définit cet instant précis comme l'illustration parfaite de la droiture désintéressée. C'est le moment où la confiance remplace le calcul. Et la source souligne un truc majeur. Si on avait toutes les réponses à l'avance, si on avait la garantie du résultat, la confiance ne serait tout simplement pas nécessaire.
C'est un paradoxe fascinant, vraiment. Laissez-moi résumer ça pour voir si je saisis bien la mécanique du truc. En gros, si on me donne toutes les garanties et toutes les explications, je ne fais pas du tout preuve de confiance. Je fais juste un calcul de probabilité qui est rassurant.
Exactement. Vous gérez un risque, c'est tout.
Voilà. Donc, la confiance n'est pas ce qui accompagne les réponses claires. La confiance, c'est la matière même qui vient combler le vide absolu créé quand les réponses disparaissent.
C'est magnifiquement résumé. La confiance exige une zone d'ombre. En fait, s'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a que de la conformité à un plan préétabli.
C'est vertigineux.
C'est le lien profond que Walton tisse entre Job et Abraham. Les deux sont poussés dans une situation extrême, où le pourquoi n'a plus aucun sens, où l'équation bénéfice-risque vole en éclats. Et face à ce chaos, la seule variable qu'ils contrôlent encore, c'est le choix de maintenir leur intégrité et de faire confiance au-delà des raisons.
Donc, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, enfin, toute la recherche de Walton, ça forme un changement de paradigme massif sur comment on devrait aborder nos propres tragédies.
C'est clair que ça change la donne.
Si on récapitule, la première leçon, c'est d'accepter que le fameux guichet des raisons est définitivement fermé et qu'il faut arrêter d'exiger des explications mathématiques à un univers qui contient du chaos.
Ouais. On abandonne l'illusion du contrôle.
Ensuite, la deuxième, c'est de se débarrasser de notre syndrome du procureur. Faut cesser de convoquer l'univers au tribunal pour comprendre l'aérodynamique de nos drames, parce que ça nous dépasse complètement.
On n'est pas les pilotes du Boeing.
Exactement. Et enfin, le cœur du message, passer du statut de client qui cherche son petit bénéfice moral à celui de partenaire capable d'une vraie droiture désintéressée.
Et franchement, cette redéfinition, elle a un impact psychologique profond aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles l'approche de Walton est hyper pertinente, même en dehors des cercles religieux, c'est la libération qu'elle procure.
C'est-à-dire ?
Ça libère de quoi au juste ? Dans notre culture moderne, on a développé cette tendance hyper toxique à vouloir trouver une leçon cachée derrière chaque maladie, chaque deuil, chaque échec. Enfin, penser que la tragédie est une école sur mesure, ça ajoute un fardeau écrasant sur les épaules de celui qui souffre.
Ah, mais tellement ! On se met à culpabiliser de ne pas réussir à comprendre la soi-disant leçon de notre propre douleur. On se dit « mince, j'ai pas encore guéri parce que j'ai pas compris le message ».
Exactement. La quête incessante du pourquoi, ça crée souvent une deuxième couche de souffrance. On souffre du drame initial et ensuite on souffre de son inintelligibilité.
La double peine, quoi.
C'est ça. Et le cadre que Walton propose, il court-circuite cette double peine. En acceptant que l'univers n'a pas à s'expliquer et que l'événement résulte peut-être juste du désordre naturel, on se libère de l'obligation de résoudre une énigme insoluble.
Ça ne gomme pas la douleur, bien sûr.
Ah non, pas du tout. Mais ça modifie notre posture mentale. On cesse de chercher le sens caché pour se concentrer sur notre propre réponse, sur notre capacité à maintenir notre dignité au cœur du désordre.
Ce qui m'amène à une ultime réflexion, une idée un peu provocatrice pour clore notre analyse d'aujourd'hui.
Je vous écoute.
Si on pousse cette mécanique de la confiance jusqu'à sa limite logique, enfin, bien au-delà des sources de Walton, imaginons un instant que ce fantasme du guichet des raisons devienne réalité.
D'accord.
Imaginons que pour chaque souffrance, il y ait une voix indiscutable qui nous explique instantanément pourquoi c'est arrivé, avec la garantie des bénéfices futurs à la clé.
Ce qu'on veut tous secrètement.
Oui.
Mais si obtenir cette certitude détruit par définition notre capacité à développer la confiance dont on vient de parler, se pourrait-il alors que l'absence totale de raison, ce grand silence cosmique face au drame, ce soit en réalité la condition indispensable, le seul environnement possible pour que la véritable résilience humaine, l'altruisme pur et l'amour non calculé puissent exister ?
C'est une pensée extrêmement profonde. Enfin, si le monde était instantanément lisible et qu'il offrait toujours une justification immédiate, le courage n'aurait plus d'utilité.
Ce serait juste de la transaction commerciale.
Exactement. L'héroïsme ou le sacrifice de soi deviendraient des simples calculs d'intérêt. L'incertitude et l'absence de raison sont effectivement le terreau exclusif sur lequel peut pousser une véritable intégrité humaine.
C'est une faille philosophique majeure et c'est vraiment sur ce paradoxe qu'il est essentiel de méditer. Il faut continuer à s'interroger sur nos propres motivations, à confronter nos biais face aux besoins de contrôle, et surtout, veiller à ne pas s'épuiser psychologiquement en cherchant à tout prix des explications là où il n'y en a peut-être aucune.
Il faut accepter de ne pas tout savoir.
C'est ça, accepter le mystère sans perdre sa boussole intérieure, c'est peut-être la plus grande des victoires. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de ces idées complexes. À très bientôt pour une nouvelle exploration.